colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bien, nous restons dans les grands espaces. Et par contre, je me suis limité dans le temps, même si nous sommes dans un long terme, puisque nous sommes sur 2500 ans au moins. Puis nous verrons dans les débats peut-être si nous dévions vers d'autres horizons plus contemporains. La steppe est un milieu particulier puisque c'est une terre en friche, une terre inculte, généralement herbeuse, parfois plus ou moins fertile, avec des variations très saisonnières. C'est presque toujours un pâturage pour les chameaux et les chevaux principalement qui peuvent y vivre à l'état sauvage. Nous sommes dans un biotope qui est caractérisé par un climat irrégulier, des tempêtes soudaines, des hivers rigoureux, des étés brûlants. Si je prends la Mongolie, qui est la référence pour moi du fait de ma formation, nous avons des pointes à moins 40, moins 50 l'hiver, et puis il n'est pas rare que l'été, sur le haut plateau mongol, on touche aux 40-45 degrés. Donc, il arrive qu'il neige très, très tard dans l'année. C'était pas la bonne version. Pour les Grecs et les sédentaires en général, qui surtout, eux, ont considéré la situation de l'Ukraine méridionale, c'est une terre inculte et un désert. C'est une terre désolée, sans route, sans ville, sans culture, parcourue par des gens bizarres qui n'ont pas de ville, qui ne mangent pas de pain, qui ne boivent pas de vin, qui sont parmi les plus féroces des barbares. Alors voilà une peinture mongole début 20e siècle, fin 20e, qui montre la platitude, pas d'arbres, et puis quelques troupeaux, quelques cavaliers, quelques deux yourtes. Ça, c'est la même chose, mais sous forme de photographie. Il n'y a rien où se cacher, sauf derrière la colline, peut-être. Et chaque fois qu'il y a un lieu boisé... Alors, ça, c'est la Mongolie centrale. Au sud, vous avez le Gobi, qui s'apparente plus à un milieu désertique. Et puis au nord, vous avez des forêts, par contre. Mais l'essentiel de la guerre steppique se situe entre les deux. Et chaque fois que dans cet espace, il y aura des arbres, eh bien, ils feront l'objet d'un lieu-dit. Donc le pastoralisme nomade qui est au cœur de la culture de la guerre des steppes est un mode de production fondé sur l'utilisation alternée de pâturages d'hiver et d'été avec une spécialisation des troupeaux et des pâturages en fonction de la saison. C'est-à-dire que certain nombre de plantes sont tout à fait assimilables par les chameaux mais pas du tout par ni les chevaux ni les moutons. Donc il faut tourner sur les différents pâturages en fonction aussi de la saison. Pour ces plantes, justement. Puis il y a la question de l'eau. Il faut avoir un accès à l'eau. Puis en hiver, il faut se protéger du vent, de la neige, etc. C'est un mode agricole très, très technique, quoi qu'il en paraisse. Et il faut bouger aussi pour protéger cette pâture. Parce que la surexploitation du pâturage est une chose, mais le piétinement rapide des bêtes, hein, la calamité des sabots, est quelque chose qui détruit le pâturage. Vous connaissez tous ça sur un terrain de football, devant la cage du gardien de but, l'herbe est moins verte. Contrairement à une opinion bien arrêtée, le nomadisme n'est pas ce stade archaïque de développement des sociétés. C'est au contraire une adaptabilité particulière de sociétés très anciennes qui, partant d'une agriculture tout à fait sédentaire, se sont progressivement mis à bouger, à changer de champ d'abord, puis de pâturage, en même temps qu'ils ils étaient en train de domestiquer donc les ovins et les équidés. Et il semble donc que, en même temps que ce phénomène se développe, il y ait une descente de peuples depuis les forêts de Sibérie vers justement la zone qui nous intéresse, qui est la zone proprement steppique. Voilà l'une des représentations. J'ai rajouté les Arabes qui n'étaient pas mentionnés, qui sont d'autres peuples nomades, mais qui ne feront pas l'objet de l'étude. Et ce qui nous intéresse, c'est ce vaste réservoir de peuples qui ont été tous mis dans la même zone, donc les Scythes, les Parthes, etc., les Sarmates, on ne sait pas trop. Ce qui est intéressant, c'est que ici serait le, dans cette zone qui va du nord de la Caspienne au contrefort du Pamir, etc., et à l'Altaï, serait la zone d'émergence des paléocytes, des protocytes. Et puis de l'autre côté, il y a un autre foyer qui est celui des Turcs issus de la Sibérie et des autres peuples assimilables qui partagent un peu la même culture, qu'on parle des Xiongnu, des Mongols, des Mandchous, etc. Avec ici Koguryo, qui est un royaume coréen sur la Mandchourie, qui a profité, qui émerge à partir du 3e siècle avant notre ère et qui a profité des mêmes influences, et puis des interpénétrations sur cet espace entre les deux façades, si on veut, de cette zone de steppe. Bon, je passe. Cette mutation économique donc, du pastoralisme nomade s'accompagne d'acquisitions techniques, notamment la domestication des ovins, le cheval, mais aussi l'invention du chariot, l'habitat démontable, qui permettent un nomadisme accéléré et sur de plus grande portée. Cependant, les transhumances, bien que répétées, sont des déplacements de quelques kilomètres à chaque fois. À la fin de l'année, ça représente beaucoup, mais ce sont toujours des petits déplacements de quelques dizaines de kilomètres et des grandes transhumances saisonnières pour passer l'hiver à l'abri du vent sous la protection d'un relief, etc. Donc une représentation de chariots scythes d'une part et de cavaliers et chariots coumans. Donc les scythes sont des Indo-Européens, les coumans ou kipchaks sont plutôt turcs, du moins à l'origine, puisqu'ils se sont largement mêlés par la suite aux Russes, puis aux Hongrois. Ici, le Gerterek, qui est le chariot maison mongol, qui est une représentation comme une autre, qui, elle, vous le voyez, est supposée s'inscrire dans la steppe, avec le chariot de bagage tiré par un chameau de l'autre. Et puis, ici, une représentation tout à fait artistique, parce qu'on n'allait pas avec son chariot yourte aussi près des murs, on mettait ça à bonne distance et puis on mettait une barricade. Barricade qui pouvait être, le cas échéant, constituée par les chariots de bagages. Donc ici, on est sur une vue d'artiste qui n'a rien de réel. Vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, donc, nous avons des cavaliers. Ça commence vers le 8e siècle en réalité, mais nous avons ce type de silhouette de cavalier qui va dominer la steppe pendant peut-être 1000 ans. On ne perçoit pas vraiment de différence extrême entre ces cavaliers de Haute-Asie du 5e siècle tels qu'ici représentés et les Scythes, par exemple. Et cette Haute-Asie est peuplée de peuples européides. Ici, un Xiongnu, un de ce qu'on appelle les Huns, en mongol Hunu, qui reprend les mêmes caractéristiques. Ce sont presque tous des archers à cheval, et l'infanterie disparaît totalement. S'il n'y en a jamais eu, elle disparaît et on va se déplacer uniquement à cheval dans cet espace, avec cette spécificité qui est aussi l'arc qui est une constante Ici, le délicat moment où l'on bande l'arc, c'est-à-dire qu'on en accroche la corde, qui ne peut pas se faire à cheval et qui nécessite un moment de calme et un peu de force aussi, il faut le dire. Surtout que vous le voyez, il a enjambé, il a passé la jambe à travers entre le bois et la corde. L'arc scythe, c'est un arc composite, c'est-à-dire qu'il y a du bois, de l'os, des tendons, qui en font une arme extrêmement complexe, qui craint l'humidité, qui est longuement collée, fixée, ça prend des mois pour faire un bel arc de ce type, et un arc de relativement petite taille, puisque, pour ça c'est l'appréhension, et on tire avec une bague d'archer sans tenir directement la flèche avec les doigts. Ça c'est l'entraînement qui semble-t-il a été repris dans certains groupes de reconstitution de tir à l'arc à cheval qui sont à la mode. Oui, je sais pas, j'espère que je vous montrerai tout à l'heure, je voulais dire que l'arc est du fait de sa complexité, du problème de la corde, conservé à la ceinture dans un étui qu'on appelait gorite chez les Grecs. Et c'est une marque qui va continuer jusqu'au XIXe siècle, notamment en Chine. Les photos qu'on a de guerriers chinois quasiment en 1900, ce sont des gens qui ont un arc dans un étui porté à la ceinture. Ici, les flèches à signaux, vous voyez le fer qui est assez compliqué, et puis un sifflet. Et puis ici, vous avez la soie que l'on... Il manque le bois et l'empennage. Avec des pointes extrêmement complexes chacune, est destinée à un usage particulier. Il y a même des pointes mouchetées, mais avec des poids qui sont utilisés pour assommer certains ennemis que l'on veut capturer vivants. Mais une partie de ces pointes, ce système par exemple, ou d'autres, sont très larges, et sont utilisés pour frapper les armures et faire le maximum de dégâts possibles. D'autres armes de l'art life sont les pointes de lance classiques, les marteaux de guerre, il y a aussi les masses d'armes, et puis quelque chose qui semble assez ancien, le numéro 1 est une épée turque de l'Altaï entre le 6e et le 10e siècle, et on voit la courbure très significative que prend progressivement la lame et de même l'épée kirghize qui semble s'apparenter progressivement à ce que nous connaissons comme sabre courbe qui ont fait fureur jusqu'au 19e au moins dans beaucoup de corps de cavalerie, y compris en Occident. Voilà. Alors ici des partes, et vous voyez bien ici donc cet étui. Alors ici c'est un étui carquois en même temps, parce qu'on ne peut pas changer la corde de l'arc en action, donc on a toujours un arc au moins sur soi, parfois deux, au moins un sur soi et parfois un sur le cheval. Ici, donc, les Parthes contre les Romains. Nous sommes toujours dans l'Antiquité, à l'époque de la guerre civile à Rome. Les Parthes sont des spécialistes, comme les Scythes, du combat tournoyant. On n'attaque pas de front, on ne fait pas de choc. On va faire pleuvoir une pluie de flèches qui prépare le terrain. Et puis, en dernier, on va attaquer à la lance. Lance qui est tenue à deux mains. Ce qui nécessite une prouesse technique, un savoir-faire particulier, puisque se tenir à cheval et manier la lance en même temps, sans tomber, est quelque chose, sans étrier à l'époque, d'assez complexe. Les sarmates également, avec ici la lance tenue à deux mains. Alors, la technique, elle est ici reproduite par des artistes. Il y a quelques bas-reliefs ou éléments de réflexions qui sont données par l'archéologie, mais en réalité, personne ne sait exactement comment cela se maniait. Ici, nous sommes à l'époque historique, au Xe siècle, en Chine, c'est la Chine du Nord et la Mandchourie, ce sont des cavaliers Liao, donc des proto-mongols, avec des cataphractes proto-mongols. Ici, les Kipchak ou Polovts, qui reprennent tout à fait la même répartition à peu près que les cavaliers scythes, et qui sont donc sur les mêmes types de pâturages, et qui seront détruits par les Mongols au XIIIe siècle. Et donc j'en viens, pour ce qui nous intéresse, à la manœuvre et à la tactique dans ce milieu particulier. Je vais aller plus vite. Plusieurs questions sont en suspens. C'est-à-dire la question de ce que les Américains, les Anglo-Saxons appellent « swarming », c'est-à-dire le combat tourbillonnant, le combat en fourmillement, le harcèlement permanent, le combat tourbillonnant. Nous sommes assez mal armés en français pour en parler. Avec des norias et des attaques de longue durée, avec des prises de flanc ou des attaques combinées ou des systèmes d'aspiration que je vous montrerai tout à l'heure. Et le modèle le plus connu, le plus achevé, c'est celui de l'expansion mongole, puisque les Mongols ont réussi, avec ces techniques, à s'emparer de la quasi-totalité du monde connu à l'époque. Curieusement, ils se sont opposés à des adversaires qui, dans une bonne part, connaissaient les mêmes techniques. Et je dirais que le mystère le plus frappant n'est pas pourquoi ils ont réussi, mais pourquoi les autres n'ont pas pu s'opposer à eux, ce qui est une autre manière de poser la question. Puisqu'en réalité, aussi bien les Turcs que les Koumans dont je parlais tout à l'heure, ont les mêmes techniques, ont le même équipement à peu de choses près. Alors ici, c'est de l'art mongol, mais le bouclier est complètement faux, parce que les Mongols, s'ils connaissaient le bouclier, ne l'utilisaient que très peu. La question, c'est aussi, est-ce que les Mongols attaquent par petits groupes et tirent trois flèches, puis en se retirant, tirent quelques flèches? Est-ce qu'ils font une sorte de caracole, c'est-à-dire un mouvement continu pendant quelques minutes ou quelques dizaines de minutes pour envoyer le maximum de flèches sur un ennemi qui relativement reste statique ou au contraire va être aspiré? Ici, les Parthes attaquent le carré romain avec des techniques où ils se retirent dès qu'ils arrivent à portée de javelot des Romains. Donc là aussi, il y a un mystère sur la technique finale, le savoir-faire exact de ces Mongols, parce que les Mongols n'ont pas écrit, ou si peu, que nous savons pratiquement rien des techniques militaires sur le terrain exactement. La seule chose que l'on connaît très bien, parce que les représentations sont abondantes, c'est cette flèche du Parthe qui, des Turcs aux Mongols, en passant par les Coréens de Mandchourie, est toujours la même et n'a pas changé depuis les premiers scythes ou proto-scythes. Alors la bataille mongole, celle-ci est documentée. L'avant-garde mongole va attaquer l'ennemi en petit nombre, lâcher quelques flèches et se retirer. Donc les Mongols attaquent, ils se retirent, ils tirent des flèches, attirant l'ennemi qui, s'apercevant que les Mongols sont si peu nombreux, c'est aussi vrai que dans ce cas-là, c'est une bataille type, mais dans le monde occidental, donc dans un monde qui connaît moins bien la steppe, la chevalerie occidentale a de l'allant, de l'héroïsme, de la vaillance et aucune discipline. Donc ils vont poursuivre. Et d'autant plus qu'ils ont envie d'en découdre, parce qu'en général, les Mongols ont refusé le combat pendant plusieurs jours. Et là, arrivés au contact, ils vont prendre quelques volées de flèches, et surtout, ils vont être encadrés par des cavaliers qui vont les encercler. La question étant de savoir si ce sont les mêmes cavaliers qui ont fui ou d'autres. Pour ma part, je pense que ce sont d'autres cavaliers, ou alors l'avant-garde a eu le temps de se replier suffisamment loin pour changer de monture. Parce que l'opération coûte cher en fatigue pour les chevaux. Le général mongol, contrairement à ce qui se pratique à l'époque dans les armées occidentales, est toujours sur une colline séparément et ne participe pas directement à l'action dans la phase classique de ces grandes batailles. Par contre, tous les, entre guillemets, généraux mongols ont participé à des batailles de terrain au moment où ils n'étaient que les compagnons de Chinggis Khan, ou plus exactement de Temujin, à l'époque de leur folle jeunesse. Et là, il y a un système très performant d'estafettes qui court de corps en corps et qui assure la cohésion et la transmission des ordres. Et à la fin, le corps donc, que l'on voit ici représenté va donner l'estocade finale avec les cataphractes et les combattants armés de la lance qui vont finir le travail. Donc, nous sommes dans une technique de grignotage d'un côté et de choc final. Ici, c'est une vue de l'esprit, très probablement, puisque il ne tient pas sa lance à deux mains, je dirais. Notre brave Mongol. Là, par contre, c'est un peu mieux, sauf que, là aussi, c'est une vue d'artiste, mais la lance accrochée permet d'agripper les cavaliers ennemis et de les faire chuter. Donc de les empêcher de fuir. Ici, ça doit être soit contre la Hongrie, soit contre les Polonais. Probablement la Hongrie. Donc tout ça en présence de plusieurs phases, attaquer l'ennemi, attirer l'ennemi, la retraite feinte, le grignoter, l'encercler, le ronger et le détruire. Alors bien sûr, je simplifie au maximum. Cependant, et j'ai découvert ça lors d'une autre communication, le rôle des avant-gardes est totalement négligé dans l'approche qui a été faite jusqu'ici de la guerre mongole, puisque, en fait, les avant-gardes mongoles vont battre la campagne avec des rideaux de couverture et des flancs-gardes qui font de la reconnaissance et qui permettent au corps de précurseurs de blesser de préférence les populations qu'ils rencontrent, de tuer le bétail et de créer un mouvement de panique qui permet, une fois que la panique est engagée, de faire bouger les colonnes de réfugiés dans la direction que l'on veut, en les effrayant. Ce qui fait qu'en fait, les populations abandonnent tout, sont aidées plus ou moins dans leur retraite par d'autres villages, qui alentour sont pris par l'effet, un effet de boule de neige, et ces gens-là sont soit rendus à la famine, se réfugient dans les forêts, les montagnes, et n'ont plus à manger, et le tissu industriel disparaît. Plus de forges, plus de commerce, plus d'agriculture. Les Mongols, ça leur est égal, ils sont pasteurs nomades, les troupeaux sont avec eux. Avec les gros de l'armée, les troupeaux suivent. Donc ils ont de quoi manger, et ils sont totalement autonomes. Et les réfugiés, au bout d'un moment, finissent par trouver une ville dont ils grossissent la population, créant un effet de famine qui va accélérer le siège. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'art opératique mongol, ici la campagne de Transoxiane, puisque donc à la suite de l'assassinat de marchands mongols par le gouverneur de la cité d'Otrar dans l'empire du Khwarezm, les Mongols décident de réagir et de châtier donc leurs ennemis qui ont trahi et qui ont créé en fait qui ont fait un crime de lèse-majesté, puisque ces marchands avaient rendu ambassadeur. Donc ici c'est la ville qui est attaquée en premier, dont le gouverneur avait fait le massacre. Mais il y a trois corps. Un corps qui part de Kashgar, qui traverse les montagnes, qui descend dans la vallée de Fergana et qui commence à mettre le siège sur les cités de Rogent, etc. Un corps qui attaque Otrar et qui va redescendre pour se rabattre sur Rogent ou sur Samarcande et Bukhara. Et puis l'armée réellement là de Chinggis Khan qui va, elle, je ne sais pas dans quelles conditions exactes, traverser le désert de Kizilkum et se porter sur Bukhara directement, et puis qui reviendra après, s'il le faut, le cas échéant. Ce qui fait qu'en réalité, seules les deux armées, celle de la vallée du Fergana et celle qui attaquait Otrar, ont été repérées. Le dernier corps, il n'existe pas avant qu'il débouche sur Nourata et puis qu'il mette le siège à Bukhara après. Et ça, je pense que ce type d'opération que l'on retrouve ici en Europe à une très large échelle après la réduction des principautés russes, je rappelle que les princes russes n'ont pas voulu, ont prêté assistance aux Koumans et ont assassiné des ambassadeurs mongols, et que d'autre part, le roi de Hongrie a accueilli les Koumans. Donc c'est allié à des ennemis des Mongols. Mais là, l'opération mongole prend une toute autre ampleur, puisque l'objectif principal est la destruction des Koumans, qui sont un peuple de la steppe. Mais pour parvenir à cette destruction, on va envoyer une armée de couverture sur le nord, détruire les forces des Polonais, qui pourraient prêter main forte aux Hongrois. Donc la vision des forces en présence et des terrains est très très bien réussie pour des gens qui, pour ce qu'on en sait, n'ont pas de carte et se représentent les espaces d'une manière totalement abstraite, en l'occurrence. Et il y a donc une vision stratégique qui, c'est mon analyse, est la destruction de toutes les menaces extérieures potentielles, notamment l'ingérence dans la steppe des nations sédentaires et une hostilité manifestée par l'assassinat des ambassadeurs ou de marchands protégés par les Mongols. D'autre part, les peuples nomades, félons et traîtres du monde stépique, qui se sont alliés aux sédentaires contre les Mongols, par exemple, ou les compétiteurs dangereux qui refusent la soumission et qui pourraient revenir dans la steppe s'attaquer aux Mongols. Donc en fait, il s'agit d'apporter la paix dans la steppe et un accès régulier aux ressources. D'où le rôle pacificateur et l'amélioration dans la sphère mongole des routes commerciales, ce qu'on a appelé la Pax Mongolica. Il y a eu de rares défaites contre les sédentaires. L'apprentissage de la guerre chez les Mongols, mais on peut le supposer aussi chez les autres peuples de la steppe, se fait progressivement. Les Mongols, contre la Grande Muraille ou contre certains peuples, ont subi de lourdes pertes et connu des batailles terribles. Les sièges, que ce soit en Chine ou en Transoxiane, ont été terribles. Et d'autres défaites tardives contre les Russes, la bataille de Kulikovo par exemple. Les Russes ont dit que c'était la défaite des Tatars, mais ce n'était pas la seule armée des Tatars, c'était un groupe de Tatars. Et en fait, l'Empire stépique, on en reparlera sans doute une prochaine fois, est une aberration, puisque ça ne doit pas exister. C'est un moment privilégié qui permet cette unification des pâturages, mais qui n'est pas voué à continuer, qui est un moment M, qui ne peut déboucher que sur une division progressive des pâturages et un partage. Et c'est le but, c'est une fois que les gens ont eu leur part, bien ils vont forcément devenir à un moment indépendants. D'autre part, dans la revendication d'héritage mongol ou de la suprématie, la compétition entre les épigones de Genghis Khan, puis Tamerlan, puis, par exemple, Bajazet, le sultan ottoman, fait qu'en fait, les querelles internes à la steppe ou à la parasteppe, puisque Tamerlan n'est pas tout à fait aussi nomade que les autres, vont faire plus de dommages que la révolte des sédentaires. En ce sens, pour la Chine, on dit toujours que c'est l'amollissement dans les délices de la Chine qui a ruiné l'Empire mongol. En fait, ce sont les querelles entre les factions mongoles qui vont détruire l'Empire mongol en Chine. Et l'incapacité des dirigeants mongols de l'époque à reprendre l'ascendant, ça n'a pas empêché quelques armées mongoles de battre totalement les armées chinoises qui s'étaient aventurées dans la steppe et même de faire prisonnier certains empereurs. Le déclin s'explique par le morcellement naturel des empires steppiques, la rivalité interne donc qui provoque plus de dommages sans doute que la révolte extérieure. La connaissance des tactiques mongoles par leurs adversaires joue aussi, parce qu'au bout d'un moment, on finit par s'enfermer dans la ville et on répond plus aux provocations. Ça aussi. La bataille par aspiration que je montrais tout à l'heure, qui est une sorte de canne par aspiration, ne fonctionne plus. D'autre part, les adversaires des Mongols ont aussi adopté une partie de leur tactique au contact, d'autant plus facilement que les princes étrangers soumis aux Mongols sont à la cour mongole. Ils sont otages. Donc ils apprennent la guerre mongole. Donc une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ils savent comment réagir. La centralisation progressive aussi des États sédentaires a dégagé certaines ressources. Et puis, l'apparition des armes à feu va très progressivement changer la donne, même si, et il faut le savoir, les Mongols eux-mêmes ont commencé à se doter de poids fumés, grenades détonantes et canons à main. Ce qu'on appelait les bâtons à feu, qui ne sont pas tout à fait des arquebuses, mais qui connaissent un développement sous la Chine des Yuan. Donc, en conclusion, l'armement et les techniques de la guerre nomade ne diffèrent guère selon les époques et les peuples. Il faudrait travailler sur la question de la transmission des techniques et des modes de vie entre peuples, sans doute voisins, mais aux langues et aux cultures locales différentes. Il y a à la fois la question des influences, des emprunts croisés, et puis des redécouvertes. Les migrations et essaimages, invasions étrangères et mutations climatiques induisent aussi des effets de régression technique. Et ça, c'est assez intéressant de voir que la chute de l'Empire mongol, classique donc Genghis-Khanide, introduit la disparition progressive de ce véhicule emblématique de la conquête mongole, qui est ce fameux char maison Gerterek, qui accentuait la mobilité, puisque les bœufs ou les chevaux tiraient ce grand char maison, mais on n'avait plus à démonter une partie des tentes, ce qui s'est toujours fait, mais n'était plus obligatoire. Sachant également que la maison mongole, c'est le ger ou yurt, qui est la maison lourde. La maison d'été, c'est une tente en tissu léger qui permet de s'abriter de la pluie et le cas échéant du vent. La guerre steppique est étroitement liée au cheval et à la maîtrise de l'arc. L'armement reste, et c'est assez extraordinaire, le même pendant 2500 ans, 3000 ans. L'arc, la hache, l'épée, la lance. Sous divers modèles de lance, de taille, de longueur, etc. Le javelot chez les Mongols, pas trop. Non, l'arc, avec des concours d'archers et des tirs. Je n'ai pas parlé de l'entraînement à la guerre avec les grandes chasses mongols qui ont tant impressionné un Marco Polo ou d'autres voyageurs. La manœuvre qui diffère peu, mais qui est modifiée par la direction du chef. Et c'est extraordinaire de penser que Chinggis Khan, qui ne sait ni lire ni écrire, qui est un autodidacte complet, qui est sous la coupe de sa mère en partie, puis de sa femme, et qui, dans l'histoire secrète des Mongols, fait parfois l'effet d'un benêt, va bâtir les bases de l'Empire. Par contre, il faudrait aussi s'interroger sur la question de la discipline, discipline extrêmement moderne au sens contemporain pour nous, hommes du XXe et du XXIe siècle, par rapport à des armées locales qui n'ont pratiquement pas de discipline. L'abondance des montures, la qualité de l'équipement, de l'armement, la fidélité des alliés, la rigueur de la discipline sont donc des facteurs déterminants d'une domination presque incontestée de l'Eurasie pendant plus de 2000 ans. J'ai été un peu vite dans la rédaction du PowerPoint, excusez-moi. Les limites simplement de cette domination semblent avoir été les zones de forêts et de montagnes abruptes et les marais. J'aurais dû ajouter le dégel des Rasputitsa dans certaines zones de Russie qui empêchait totalement les Mongols de se déplacer, alors qu'en hiver, les Mongols utilisaient les fleuves gelés comme des autoroutes naturelles. Je vous remercie.
Merci à vous. Vous me confirmez une fois de plus dans l'idée que le fait que les Mongols ne fassent pas partie de la culture historique générale est une lacune fâcheuse dans cette culture générale, du moins historienne. Enfin. Alors, juste une question. Guerre Terek, c'est du turc? Parce que Terek, c'est la confrérie aussi, non?
Non, Terek, c'est ce qui a donné probablement le... Je ne connais pas le russe, mais vous savez, dans Michel Strogoff, la Teleg, le chariot.
Oui.
Donc Terek, c'est le chariot. Temur Terek, c'est le... Gal Terek, c'est le... Comment ça s'appelle la locomotive, le train, et ainsi de suite. Et donc, Terek, c'est le chariot.
Bon. Alors, qui veut poser une...
Oui. Une question bibliographique. Est-ce qu'on peut lire encore René Grousset ou est-ce que c'est complètement dépassé?
Alors, sous certaines réserves, René Grousset, qui s'était nourri des meilleurs spécialistes de l'époque, est bien meilleur que Jean-Paul Roux, qui a fait une histoire de l'Empire mongol, mais qui n'a pas lu toute sa bibliographie. Ce qui est un peu dommage, et qui a fait quelques erreurs, parce que ses notations, sans doute manuelles, sa main était peut-être tremblante, je ne sais pas, mais il y a eu des gens qui se sont retrouvés munis d'une finale en off, alors qu'ils sont bien français et qui n'ont rien à voir. Le problème, c'est que si on lit une partie des sources de Jean-Paul Roux, on s'aperçoit qu'elles contredisent ce qu'il écrit. Donc, Grousset, oui. Le problème, c'est que l'un des meilleurs spécialistes de l'Empire mongol et de la Mongolie en général, qui est Jacques Legrand, l'ancien président de l'INALCO, n'a pas publié de livre sur... il a écrit beaucoup d'articles, mais pas de livre sur cette Mongolie-là. C'est un homme orchestre qui a fait de la linguistique, des études sur le nomadisme, énormément de choses, mais qui n'a pas travaillé sur les aspects militaires. Et justement, la connaissance fine d'un certain nombre de faits culturels liés au nomadisme, il y a l'étude du mongol, l'étude des peuples nomades, l'étude du chinois, l'étude du russe. Moi, je parle coréen, je me débrouille un peu en mongol, mais je n'ai pas accès au russe, je n'ai pas accès au persan, je n'ai pas accès... L'Empire mongol, c'est à la fois quasiment la moitié du monde connu, ou plus, et en même temps, une complexité linguistique énorme, parce que les sources sont parfois mal traduites, extrêmement nombreuses, mais écrites par des gens qui n'étaient pas mongols et qui détestaient en général les Mongols. Les Mongols ne s'intéressaient pas à l'art militaire et l'histoire secrète des Mongols, qui est le seul texte réellement mongol qui existe, contemporain des événements ou pratiquement contemporain, se limite à une chose très simple qui est « Et donc, à la suite de tel événement, on envoya en l'année 2, etc., vers tel peuple, tel général. » C'est tout. Et donc, tout ce qui est, il y a des aspects de l'armement, il y a des aspects des premières batailles, mais ce n'est pas un manuel militaire, c'est plus un poème épique, une épopée. Il y a un aspect politique interne à la famille et au clan de la conquête qui est très politique, avec qui a droit à quoi, qui était le premier compagnon, qui a rendu service, et des services éminents à la famille régnante, mais pas plus. Et donc, on ne peut pas directement trouver les éléments que nous devons rechercher ailleurs, chez des voyageurs, chez des chroniqueurs. Les chroniques chinoises sont fausses, dans bien des cas, elles sont mauvaises parce qu'elles ont été écrites à la va-vite et toujours par la dynastie suivante, dynastie des Ming, dynastie chinoise, qui n'avait rien à offrir aux Mongols, au contraire, qui était l'ennemi des Mongols. Donc nos sources sont toujours biaisées. Et l'investissement des arcanes de l'art militaire mongol est quelque chose de très complexe, qui est relativement possible puisque il existe en Asie, chez les Turcs, chez d'autres peuples, un certain nombre de coutumes, de pratiques, de tir à l'arc. J'ai eu l'occasion de tirer avec un arc traditionnel coréen l'été dernier. Vous avez une puissance, l'arc est minuscule, mais vous avez une puissance phénoménale. Et on tire au radar quasiment en Corée. L'important n'est pas de toucher la cible, l'important, enfin si, c'est de toucher la cible, mais au bout du champ de tir, c'est-à-dire le plus loin possible, et on a une espèce de radar qui signale qu'on a franchi la dernière ligne ou pas. Et c'est ça, en gros, l'important dans la pratique actuelle du tir à l'arc en Corée. Donc c'est quelque chose qui nécessite vraiment un investissement très, très lourd en termes de bibliographie, de langue, et qui n'est pas évident aussi à décrypter.
Oui, vous nous dites que la logique, c'est pas celle de l'unité, mais du morcellement, si j'ai bien la logique politique chez les Mongols. Moi j'avais mon souvenir de Grousset et puis d'autres études historiques sur les Mongols où on faisait un rapport entre justement l'absence d'obstacles sur cette surface plane, hein, la steppe, et finalement une poussée ou une logique vers l'empire, vers l'unité, vers l'extension. Alors finalement, comment est-ce qu'ils pensent cette unité, les Mongols, et par rapport au morcellement politique naturel que vous décrivez, le rapport entre l'unité et le morcellement chez eux dans cette expansion?
Alors, en fait, moi je parle des Mongols parce que c'est ce que je connais le mieux et c'est ce qui est documenté, relativement. Vous avez un ensemble en Mongolie de familles, de clans, de tribus, avec des chefs charismatiques, avec des chefs qui ont une généalogie, qui sont fiers, qui ont été princes à un moment, chefs de clan. Et puis, ils sont contestés. Et puis, les clans se font la guerre. Et, autant la guerre est quelque chose qui peut-être n'est peut-être pas admirable, mais qui fait partie des conventions sociales établies, autant la traîtrise ne l'est pas. Et le père donc de Chinggis Khan est empoisonné. Ses partisans l'abandonnent. Et donc il va développer quelque chose sur la fidélité. Il va créer sa propre famille et ses clans, son système d'alliance, sur la fidélité et les copains. C'était peut-être pas quelqu'un de très intelligent au départ, mais il s'est bien entouré, Il avait certainement la capacité à faire du lait de jument fermenté tout à fait correct et respecter sa parole. Je pense qu'il avait une voix agréable et qu'il savait parler. Après, il y avait sa mère et sa femme. Ça aussi, ça a beaucoup joué. Mais le point extrêmement important, c'est justement les traîtres, on n'en veut pas. Ceux qui ne respectent pas les règles, je m'en débarrasserai. Ça veut dire je les tuerai. Et il va aller plus loin, il va totalement débarrasser la steppe des traîtres, c'est-à-dire les fameux tartares, les tatars, qui sont les pires ennemis avec lesquels, en plus c'est eux qui ont assassiné son père, et qui sont liés aux Chinois. Et c'est la faute aux tatars. On réactive une vieille querelle qui date de leur arrière-grand-père. Les tatars ont torturé, assassiné, humilié des princes mongols pour le compte des Chinois. Les Chinois ont fait pareil, et donc on ne peut pas s'entendre ni avec, entre guillemets, les Chinois qui ne sont pas des Chinois, qui sont en fait un autre peuple de Sibérie, d'origine Tungouze, qui donnera aussi, peu après, quelques siècles plus tard, les Mandchous. Et donc on va les châtier. Donc on va s'attaquer à la Chine. Le problème, c'est qu'une fois donc, qu'on se sera emparé de la Chine du Nord, qui est le débouché naturel de la steppe, les empires turcs ou proto-mongols se sont toujours attaqués à ça, on pourrait s'arrêter là. D'ailleurs, c'était prévu qu'on s'arrête là. Parce qu'on a restitué l'ensemble oriental des steppes qu'on se partage pour les territoires. Comme ça, ben toi tu m'as aidé, je te donne ton troupeau, et puis ainsi de suite. Et on fait le partage des territoires et des troupeaux et des peuples qu'on a soumis. Sauf que, arrivé à ce point-là, il y a, et c'est une constante dans l'histoire mongole, à chaque fois, un ambassadeur qui est assassiné, un envoyé qui est retenu en otage, etc. Et là, on ne peut pas. Si on ne fait rien, on perd tout crédit. Donc, on va attaquer, et par miracle, ça marche. Ça coûte cher, mais ça marche. Je dis ça coûte cher parce que le Tchingis Khan a perdu plusieurs membres de sa famille sous les murs de différentes forteresses.
Oui.
Mais
oui. Le temps passe.
Là, les Mongols donc vont progressivement se trouver engagés dans une série de conflits qu'ils n'avaient pas prévus et qui va finalement déboucher sur l'Empire.
D'accord.
Mais c'est un accident. C'est un effet d'entraînement. Je crois que c'est Churchill qui disait la guerre, on l'a fait, on sait quand elle commence, on ne sait pas où elle va. Ben, c'est exactement ça.
Merci. Alors, une toute dernière question de monsieur de l'Espinois, mais c'est la toute dernière, parce que le temps passe. Hein. Il y a encore trois exposés.
C'est extrêmement moderne, ce swarming, ces colonnes qui opèrent, ces armées qui opèrent d'une manière séparée. Et ça pose quand même le problème de la coordination et du commandement. Est-ce que comment ces colonnes différentes qui opèrent sur un théâtre qui est très très large sont coordonnées et commandées?
Alors ça, c'est très simple. Moi, je pense que, étant donné qu'on n'a pas de moyens, puisqu'il n'y a pas d'arbres, on n'a pas d'armes, on a quand même un martèlement qui, en dernier ressort, pour les derniers kilomètres, s'entend sur le sol. On est obligé de fractionner les corps, parce que de toute façon, quand on transhume, on fractionne, parce que sinon, on pâturage est détruit, mais aussi parce qu'on est repéré. Donc au départ, on se fractionne et on se regroupe en un lieu donné pour attaquer, et on attaque de différents points. Et puis, ben, une fois que la recette est acquise en l'échelon tactique, puis on va progressivement développer jusqu'à avoir des armées complètes. Je pense que c'est ça l'explication.
Mais pour répondre à vos différentes questions, là, il faut partir, me semble-t-il, enfin, de ce que on a affaire à des sociétés segmentaires, d'une part, mais à structure sociale de tendance aristocratique. Et donc, je crois que ça permet ces mouvements tout à fait extraordinaires de fusion et de fission, non ?
Je ne sais pas si on peut parler d'aristocratie, parce que Chinggis Khan, c'est un éleveur. Il s'occupe de ses moutons et de ses chevaux. Il n'a pas de culture aristocratique, sauf qu'il sait que dans sa famille, il y a eu des chefs. Ça, il le sait. Et ça se transmet. Est-ce que c'est proprement aristocratique? Je ne sais pas. Mais c'est très volatile en même temps.
Oui, mais c'est très volatile.
Mais il a le charisme, et à un moment donné, il arrive à s'imposer.